C'est l'heure de la revue de presse avec Frédéric Pommier. Bonjour Frédéric.
Bonjour Pierre, bonjour Patricia et bonjour à tous.
Bonjour.
Je parle beaucoup au hasard, c'est mon plus cher confident. C'est Fantasio qui dit cela. Acte 2, scène 5, dans la pièce éponyme d'Alfred de Musset. Fantasio, le héros cynique, blasé, qui s'ennuie malgré sa jeunesse et se désole de la médiocrité de la société. Fantasio dit donc qu'il se confie au hasard, la formule est jolie. Mais il en est aussi qui choisissent de se confier à des journalistes, ainsi qu'on le constate ce matin en feuilletant les journaux.
Oui, Frédéric, une comédienne se confie au journal du dimanche.
Il s'agit de Judith Godrèche, l'une des toutes premières à avoir dénoncé les agissements du protecteur Harvey Weinstein. C'était au mois d'octobre dans le New York Times. Elle avait révélé qu'il l'avait agressée lors du Festival de Cannes en 1996, alors qu'elle était âgée de 24 ans. Depuis, l'actrice ne s'était plus exprimée publiquement sur le sujet, mais aujourd'hui dans le JDD, elle explique comment se sont déroulés pour elle les 8 derniers mois. Le plus difficile, dit-elle, a été de devoir raconter à mes enfants ce qui s'est passé, partager ça avec eux et avec ceux qui m'aiment, à ranimer la blessure, réactiver les émotions. Mon fils était inquiet, mais il a saisi l'importance de la démarche. Une démarche que Judith Godrèche ne regrette pas. Même si c'était difficile, se confier à une journaliste qui ne pouvait rien me dire, à savoir ni le nom, ni le nombre des autres femmes qui témoignaient dans le même article, me paraissait impensable. C'était vertigineux de se livrer comme cela, un saut dans le vide, mais aussi un soulagement, après des années de silence. Et quand, il y a 2 jours, elle a appris l'inculpation de Weinstein pour viol et agression sexuelle, Judith Godrèche a d'abord eu du mal à y croire, et puis elle y a vu comme un souffle d'espoir de changement, une nouvelle qui doit, dit-elle, semer le doute chez ceux qui se croient protégés. Que cet homme se retrouve aujourd'hui devant la justice sonne, dit-elle, comme une petite révolution. Harvey Weinstein encourt jusqu'à 25 ans de prison. Oui, comme les autres, toutes les autres, Judith Godrèche a donc bien fait de se confier.
Frédéric, un philosophe se confie dans le mensuel Psychologie.
Il s'agit d'Alexandre Jolien. Un dossier sur le lâcher-prise, dans lequel il raconte qu'il a bien failli se perdre. À 42 ans, né handicapé, formé à la philosophie occidentale, puis sculpté par la méditation, marié, père de famille, il s'est aujourd'hui imposé comme l'un des auteurs et conférenciers les plus influents auprès des personnes en quête de sens et de sagesse. Lui-même est donc considéré comme un sage. Mais il raconte au magazine les pulsions qui l'ont violemment ébranlé pendant plusieurs mois. En l'occurrence, il s'était pris d'un homme. Chose banale, somme toute, dit-il. Sauf que cette passion a viré à la fascination, à l'obsession, à la jalousie et à l'addiction vécue dans la peur du rejet et la clandestinité, bref, dans la honte. La honte d'aimer un homme, la honte de désirer son corps qui semblait tout puissant, dit-il, la honte d'un désir qu'il décrit comme quasi animal, un désir insatiable après des semaines de silence. Alexandre Jolien s'est finalement confié à ses amis, ses proches, sa femme, ses enfants. « Si tu idéalises le corps de cet homme, c'est parce que tu n'aimes pas le tien », lui a dit sa fille de 13 ans. Évidemment, c'est un peu plus compliqué. Mais pourquoi révéler aujourd'hui cet épisode de votre vie, lui demande Anne-Laure Gana, qui signe l'entretien. D'abord pour montrer l'envers du décor. Oser la transparence, répond-il. Il faut faire œuvre de vérité et je veux montrer aux personnes qui vivent l'addiction, amoureuse ou sexuelle, que ce n'est pas une tare honteuse ni une fatalité. Alexandre Jolien assure qu'il s'en est sorti, puis il cite cette phrase de Nietzsche. Il faut porter du chaos en soi pour enfanter une étoile qui danse. C'est une phrase merveilleuse, on remercie le philosophe de s'être confié.
Frédéric Pommier, un homme politique, se confie également.
Mais cette fois pas publiquement, ce sont ses proches qui rapportent ce qu'il dit en privé, c'est-à-dire dans Le Parisien. Borloo, l'incompréhension. Si en public, Jean-Louis Borloo s'est dit satisfait après le discours d'Emmanuel Macron sur les banlieues cette semaine, en privé, l'ancien ministre de la Ville fait part de sa stupéfaction. Toutes ses préconisations sur le sujet, le fameux plan Borloo, ont été enterrées par le chef de l'État, à l'un de ceux auxquels il s'est confié. Il a lâché « J'ai passé 7 mois à ne faire que ça, j'aurais peut-être dû les passer à autre chose ». Il aurait donc pris un coup sur la tête et vécu la séquence comme une humiliation.
Les journaux reviennent par ailleurs sur une autre séquence, la marée populaire à laquelle appelait une 60aine d'organisations politiques et syndicales.
Comme toujours, il y a bataille sur les chiffres, entre ceux de la police et ceux des organisateurs. Mais le fait est qu'on était loin des 2 millions de participants qu'espéraient certains. Moins de monde que prévu, c'est ce qui ressort dans les titres ce matin. Manif anti-Macron, une mobilisation en demi-teinte, commande centre-presse. Presse Océan évoque des vagues, tandis que la Nouvelle République parle d'un faible coefficient pour la marée populaire. Une expression qu'on retrouve dans la bouche du Premier ministre. Comme on dit chez moi, la mobilisation d'hier, c'était un petit coefficient de marée. Il le dit avec ironie donc dans les colonnes du journal du dimanche auquel il a accordé une longue interview. Sa photo à la une et cette question de l'hebdomadaire, peut-il faire plier les grévistes? Car dans cet entretien, il est avant tout question de la grève et de la réforme de la SNCF. Même si Édouard Philippe avoue que le climat social est parfois difficile, tendu, et qu'ignorer les frustrations et les colères serait méconnaître le pays, il assure dans le même temps qu'il reste parfaitement déterminé et qu'une fois que la loi aura été votée, la réforme du rail s'appliquera à tous. De son côté, Le Monde revient sur le plébiscite historique des Irlandais en faveur de l'avortement. C'est le titre à la une. Lors du référendum de vendredi, plus des deux tiers des électeurs ont approuvé la légalisation de l'IVG. Une ample victoire du oui dans toutes les couches de la société qui témoigne, explique Le Monde, de la perte d'influence de l'église catholique en Irlande, une église qui, à l'inverse, continue d'être extrêmement puissante à Malte. L'île de Malte, où avorter reste encore un crime, cas unique en Europe. C'est à lire ce matin dans Le Parisien, dimanche. Le planning familial espère qu'après l'Irlande, l'île méditerranéenne va autoriser l'avortement totalement interdit aujourd'hui, même s'il y a un risque vital pour la mère.
Dans la presse, Frédéric, il est aussi beaucoup question d'accidents ce matin.
Sur le site du Dauphiné, un dramatique accident de car qui a fait 3 morts, 11 blessés graves, 17 blessés légers. C'était hier soir vers 23h15 sur l'autoroute A7 dans la Drôme, près de Tain-l'Hermitage. Le car transportait des supporters du club de rugby de Beaucaire qui rentraient du match de demi-finale de top 14 entre Castres et le Racing 92 à Lyon. Les premières constatations indique qu'un problème de pneumatique pourrait avoir déséquilibré le véhicule. Le car s'est renversé sur la route. Autre accident, la une de l'Indépendant catalan à Gruissant. Enfant, un petit enfant écrasé par un manège. Il avait 2 ans, il est tombé du petit train qui lui a ensuite roulé dessus. Et puis il y a cette fillette de 6 ans, c'est-à-dire sur le site de West France. Une fillette décédée après la chute d'une branche d'arbre provoquée par les orages. Elle se promenait avec sa mère dans un parc. On parle ici d'une mère. Il est évidemment beaucoup question des mères dans les journaux ce matin. C'est plus léger, c'est leur fête, la fête des mères ce matin. Elles auront des cadeaux, enfin autre cadeau. Cette fois, c'est un chanteur qui se confie dans Paris Match. 3 ans après avoir frôlé la mort, William Scheller sort du silence et se raconte donc dans l'hebdomadaire. Il parle évidemment de musique, mais il parle aussi de son addiction à la drogue. Avec la cocaïne, dit-il, j'étais réellement meilleur musicien, puis il a arrêté et il est quand même resté excellent musicien.
Maman est folle, on n'y peut rien, mais ce qui nous console, c'est qu'elle nous aime bien. Quand elle s'envole, on lui tient la main, comme un ballon frivole au gré du vent qui vient. Quand maman rigole, on oublie qu'on a faim, que c'est l'heure de l'école, qu'on a peur des voisins.
Les mamans sont nos idoles, on les embrasse, Pierre.
William Scheller dans la revue de presse de Frédéric Pommier. Merci Frédéric, 8h41.